voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison, la voix du Kaizen relaie la parole de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Dans le domaine du maraîchage biologique et de la diversité, Xavier Mathias semble être multifonction. Maraîcher bio, producteur de semences, défenseur de la diversité potagère, il est également conférencier et formateur en permaculture. Rencontre avec un érudit du jardinage. L'émission s'appelle La Voix du Kaizen. J'arrive quelque part au sud de Tours, dans un petit chemin. Au bout de ce chemin, une petite maison entourée par un jardin. De la maison émane une douce musique de punk russe. M'accueille avec sa grelinette Xavier. Xavier Mathias, installe-toi, je vais me rapprocher de toi pour pouvoir un peu vivre cette rencontre et savoir, bah déjà on va poser le cadre, dis-moi où on est et ce qui s'y passe sur ce lieu.
Alors, on est dans le village magique de Chédigny, seul village classé jardin remarquable en France. C'est pour ça que je me suis installé là il y a un petit moment maintenant, il y a plus de 15 ans quoi. Et c'est quand j'ai vu le fleurissement en devenir. Je suis avec le maire de la commune qui avait décidé de ce fleurissement de plantes vivaces et tout. Énormément de diversité, etc. Je me dis, oh là, on a un point commun, nous. Alors, le point commun qu'on avait, c'est pas que moi, j'étais pas céréalier, pas en conventionnel comme lui, pas tout à fait du même bord politique que lui non plus. Par contre, on avait en commun, ouais, l'amour du végétal, des plantes, de la diversité. Et donc, quand je lui ai raconté mon projet de juste cultiver la diversité des plantes alimentaires, il m'a dit je vais t'aider. Lui faisait le contraire au niveau des cultures, voilà, on est vraiment dans les monocultures céréalières. Lui faisait le contraire, mais c'est pas grave, pour reprendre ces termes qui m'avaient bien plu à l'époque, hein, il m'a dit il faut que toutes les agricultures s'expriment. Et donc voilà, il m'a aidé à m'installer, m'a vendu un terrain, pas simple, mais bon, au moins j'avais un terrain. Et puis bah, ça a démarré comme ça, tout simplement.
C'est vrai que quand on arrive chez toi, on a des plaines, des champs entiers à perte de vue, de colza, de blé, enfin la monoculture est partout autour de toi là.
Ah oui, ici c'est... j'ai une copine qui vient de temps en temps à la maison qui dit « Putain, ça pue la mort dans ton coin !» Il y a un peu de ça quand même. Non, alors là je suis très négatif. Parce qu'on pourrait être beaucoup plus positif. Donc, c'est ça qui est sympa. C'est qu'il y a 15 ans, quand je me suis installé, faut se remettre dans le contexte hein, quand même. Maintenant, c'est bon, notre pensée, elle est presque mainstream, quoi. Voilà, notre façon de voir. Il y a 15 ans, on rasait les murs. Hein. Donc, il y a 15 ans, quand le maire a annoncé le projet qu'il y avait dans son village de m'installer et tout, il y a eu une réunion. Et au cours de cette réunion, il y avait 200 habitants du village, à peu près sur les 500. Les quatre gros céréaliers du coin ont dit qu'ils ne voulaient pas de moi, clairement. Et donc, moi je suis arrivé dans un lieu hostile, avec des gens autour de moi qui avaient la terre, qui ne voulaient pas de moi. Petit à petit, ben, on a appris à faire connaissance, à ce que ça déroule à peu près correctement, sans trop de heurts. J'ai pris qu'une fois un grand coup de désherbant sur mes plants, une seule fois. Bon, c'est pas de drame. Néanmoins, il faut montrer que t'es là dans ces cas-là et pas te laisser faire. Et par contre, donc, je parlais de voilà, il y a 15 ans, j'étais une petite enclave bio de 2 hectares, au milieu de milliers d'hectares en conventionnel. Depuis cette année, je suis entouré de bio. En fait, ils ont tous converti quasiment. Donc il y a un côté génial quoi, de se dire, ben voilà, quoi, ça y est, il y a un mouvement qui est en train de s'imprimer tranquillement. Et même des gens que tu pensais un peu irréductibles hein, quand même, tu vois, assez sauvages hein, quand même, les céréaliers. Le problème de la production céréalière en France, c'est que les gens qui la font gagnent, on ne se rend pas compte, mais ils gagnent énormément d'argent. Ils gagnent énormément d'argent avec très peu de travail, sont des gens qui ont tous un deuxième emploi. Parallèlement à la production de céréales, ils peuvent élever du gibier pour la chasse, ils peuvent faire des travaux de terrassement, des choses comme ça. Donc ils cumulent les emplois, ils ont très très peu de travail, ce qui explique aussi que beaucoup soient des élus municipaux, puisqu'ils ont le temps, tout simplement. Ils sont très présents dans les chambres d'agriculture parce qu'ils ont le temps d'aller aux réunions, aux commissions, etc.
Développe un petit peu cet aspect-là, parce qu'on a l'impression, d'un point de vue extérieur, quand on est paysan, on n'a jamais le temps, justement, on est complètement dépendant de ces cultures.
C'est exactement ce que... Moi, je viens de la viticulture. Et donc, j'ai vu des gens... À une époque, la viticulture, financièrement, c'était médiocre. Très médiocre, hormis quelques grandes régions, quoi. Mais c'était médiocre. Et avec des gens qui travaillaient énormément. Après, j'ai bossé dans l'élevage caprin et bovin. Et là, j'ai vu des gens qui travaillaient énormément. Mais quelle a pas été ma surprise quand je suis arrivé dans une plaine céréalière. Eh, mais les mecs, ils foutent rien. Franchement, je suis désolé de parler comme ça. Je devrais pas, je sais, c'est pas bien, c'est pas gentil. Mais néanmoins, quoi, c'est tranquille, quand même, mais effectivement, j'étais étonné de ça, de pourquoi on continue les céréales comme ça, débiles, avec des intrants monstrueux, avec... Mais parce que ça rapporte quand même vachement d'argent. Et le drame de l'agriculture en ce moment, et le drame des agriculteurs qu'on a en ce moment, qu'on traverse, le vrai chiffre noir de l'agriculture, c'est pas les tonnes de glyphos et compagnie. Le vrai chiffre noir, c'est un suicide tous les deux jours. Voilà, c'est ça qui est dramatique. Mais il atteint pas du tout les céréaliers. Ça atteint des éleveurs. Parce que eux effectivement travaillent comme des dingues, eux effectivement n'ont pas de revenus conventionnels particulièrement. En bio ils s'en sortent paradoxalement plutôt mieux, mais les producteurs de céréales en conventionnel, ça va, c'est la fête, les gars.
Pourquoi ? Tu peux parler de ce modèle économique ?
Alors, je le maîtrise mal. Ce que je sais, c'est qu'il y a une PAC qui est là, où on a, voilà, on a découpé l'Europe en zones, quoi. Grosso modo, il y a le sud de l'Europe qui produit les fruits. Nous on produit les céréales, c'est subventionné à mort. Donc voilà, savoir que il y a un truc vraiment qui est absolument injuste, c'est que quand vous achetez en bio des produits, vous payez quand même pour le conventionnel. C'est-à-dire que c'est sur nos impôts tout ça. Pourquoi un kilo de pâtes ça vaut pas cher? Mais parce qu'un kilo de pâtes c'est du blé essentiellement et un peu d'eau et une armichette d'œufs. Ce blé, c'est nous qui le payons avec nos impôts quand même. Non seulement ça génère une situation incroyable de commerce inéquitable nord-nord, c'est-à-dire que moi, avec mes pommes de terre en bio, je serais toujours plus cher que des nouilles dont le blé est subventionné. Donc, c'est absolument pas normal. Ça génère ça d'une part. Et d'autre part, quand moi, je décide en conscience d'acheter des pâtes en bio, il y a quand même une bonne part de mes impôts qui est partie pour payer les pâtes en conventionnel. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est une forme de double peine, en fait. Là. Ouais, donc, nous, dans nos impôts, on paye les subventions que la PAC reverse aux agriculteurs, même si on ne consomme pas.
Bien sûr. Donc, c'est en ça que j'aime bien les gens qui achètent en bio. Parce que c'est un vrai choix. Moi, j'ai vendu beaucoup en vente directe à la maison. Et je peux donc certifier que... C'est les gens qui viennent, c'est pas un niveau de vie, c'est vraiment un choix. Et en général, c'est plus un choix de temps à y consacrer qu'un choix d'investissement économique. C'est un choix de vie, tout simplement. Qui est basé sur quelque chose d'extrêmement simple. C'est ce que disait Pierre Rabhi il y a des années, et quand il disait que à l'époque on était en francs, qu'avec un billet de 10 francs, on avait plus de pouvoir qu'avec un bulletin de vote. Si demain j'achète chez un producteur, après-demain il y a des producteurs. Si demain j'achète dans un supermarché, après-demain il y a des supermarchés. C'est aussi simple que ça. Donc moi j'ai eu plein de gens ici, et j'en vois plein encore maintenant, et j'en vois même de plus en plus, qui disent non, nous demain matin, le modèle qu'on veut, ce sont des producteurs, ce ne sont pas des supermarchés. Et après, est-ce qu'on va y arriver ? Pas y arriver, est-ce qu'il est temps ? Pas temps, ça c'est une autre question. Néanmoins, ce que je constate autour de moi, c'est un vrai changement qui est super agréable.
On va revenir il y a 15 ans, tu disais. Donc toi, quand t'es arrivé dans cette région, ton projet, c'était la diversité. Pourquoi est-ce que t'as fait ce choix-là et tu t'es pas tourné, comme tous tes voisins, pour être accepté par la collectivité, en faisant du conventionnel et en devenant un grand céréalier ?
Ah oui, ça c'est une excellente question. Alors, j'aurais pas pu devenir céréalier faute de pouvoir investir, parce que il faut soit hériter, soit investir. Et pourquoi j'ai pas voulu être en conventionnel ? Mais en fait, j'ai jamais voulu, jamais pu. Alors ça, c'est un sens un peu spécial, voilà, un peu ésotérique, un peu, mais un sens du sacré. On ne fait pas ça à la terre, quoi. On ne lui fait pas. On ne fait pas ça aux vivants autour de nous, de balancer des trucs comme ça. C'est pas possible. C'est tout simplement. Et moi, je n'ai jamais mis de produits chimiques. C'est pas ou consommer ça. C'est pas pour ma santé. Je fume, donc ce serait absurde. C'est pas pour ma santé, c'est parce qu'on fait pas ça à la terre, hein, tout simplement. Et après, je trouve qu'il y a une générosité dans la nature, mais absolument fabuleuse, et que ouais, non, il faut vraiment se faire plaisir, se réjouir de ça, quoi. Faut vraiment qu'on s'en réjouisse. Il y a 1000 espèces, encore plus de variétés. Et comment se cantonner à quelques-unes seulement, quoi. Il y a un des principes de la permaculture, hein, avant qu'on parle à ce point de la permaculture, il y a un des principes quand même qui repose sur s'appuyer sur la biodiversité. Et effectivement, hein, c'est vrai qu'en bio, ben, dans les années 90, en bio, on était vachement intéressé par ces diversités parce que si tu fais de la poire de terre, si tu fais de l'oquet du Pérou, de la glycine tubéreuse, de la capucine tubéreuse, du chervil, par exemple, il n'y a pas de ravageurs ni maladies spécifiques. Alors d'accord, on va prendre le cas du Pérou par exemple. Le cas du Pérou, il a un cycle plus long que les pommes de terre. On va tourner autour de 180 jours. Il a un rendement moindre que les pommes de terre. D'accord, très bien, ok. Par contre, il n'a pas de mildiou, il n'a pas de doryphore. Donc, nous en bio, on s'est tourné vers ça, forcément. Et c'était pas de dire, tiens, on revient sur un des principes de la permaculture, c'est sur l'idée d'intégrer plutôt que séparer. Et c'était pas de dire, bah, on a les ocas, on arrête les pommes de terre. Non, c'est, on a des pommes de terre. Alors, en plus de ça, on fait des ocas. Et puis l'un amène à l'autre, et puis ce sont des espèces qui sont reproductibles à l'identique. C'était bien avant qu'on en parle de tout ça, de tous ces problèmes de catalogue, de confiscation du vivant. Moi, je parle de ça il y a plus de 20 ans. Mais cette problématique-là, on se la posait. On était quelques-uns, mais on se la posait. Et donc, bah voilà, on avait la possibilité d'avoir des plantes reproductibles. On ne disait rien à personne, on y allait. Hein.
Ça m'a touché quand tu disais « on fait pas ça à la terre ». Donc, on va parler de cette histoire du sol vivant et de la vie dans le sol. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça à la terre? Donc ça, c'est du conventionnel. Hein. On parle bien de cette manière de produire du végétal.
Ah, alors pourquoi on fait pas ça à la terre? Je saurais pas répondre, en fait. C'est un truc, moi je pense que on souffre beaucoup de notre cartésianisme. Et s'il y a quelqu'un à brûler, c'est bien Descartes. Descartes qui disait, j'aime bien le rappeler, hein, qui parlait du concept de l'animal-machine, hein, la grande horloge, etc., qui nous dit aussi textuellement, hein, que l'homme doit se rendre comme maître et possesseur de la nature. Ça, c'est les mots de Descartes. Malheureusement, on l'a écouté. Et donc, à ta question pourquoi, je ne saurais pas répondre de façon cartésienne, de dire, mais parce que ça fait ci, ça fait ça, j'en sais rien. C'est juste une intime conviction. J'ai pas de preuve, mais j'avais l'intime conviction que non, il faut pas faire ça. On ne peut pas. L'intime conviction que les plantes peuvent pas devenir orange sous le glyphosate. Alors après, cette intime conviction, elle s'est vue confirmée. En fait, on n'avait pas, j'avais pas la raison pour dire non, il faut pas de Roundup. J'avais pas de raison précise. Et puis dans l'intervalle, on a appris que il y a le Roundup, ça a plusieurs brevets, dont un, c'est un antibiotique à spectre large. C'est pas qu'un herbicide. Il y a aussi un brevet d'antibiotique à spectre large. Donc ça, je ne le savais pas à l'époque, mais j'avais l'intime conviction qu'il ne fallait pas utiliser ce truc-là. Effectivement, maintenant, on a la preuve, hein, qu'il ne faut pas. Clairement, on ne peut pas balancer un antibiotique comme ça dans la nature. C'est aussi pour cette raison, hein, qu'on en a tous dans les urines, etc. Mais voilà, moi, je n'avais pas de preuve. J'avais juste, je savais, quoi. Et j'étais pas le seul, hein, attention, quand je dis ça, mais j'admire énormément d'ailleurs, hein, les bio qui, dans les années 60, se sont levés contre la toute-puissance mécanique et chimique, quoi. Voilà, il y avait un rouleau compresseur qui était lancé, et eux se sont dressés, on dit non, quoi. Et en 71, il y a Nature et Progrès qui dépose le premier cahier des charges. Et putain, quel courage, bravo, quoi. Je suis très admiratif de ce qu'ils ont fait. Moi, déjà, dans les années 90, c'était pas facile, hein. On se faisait pas mal allumer, on rasait les murs. Imaginons 20 ans plus tôt, ce que c'était 20, 30 ans plus tôt, quoi. Donc, chapeau à eux, quoi.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
quelque chose, j'avais pas pris conscience de ça, mais cette notion d'impopularité, finalement, on a tous besoin d'être aimé, d'être apprécié pour ce qu'on fait. Et maintenant, effectivement, quelqu'un qui a son gros tracteur et puis qui balance, qui asperge les champs allègrement et montré du doigt.
Oui, ça c'est super important, de montrer le désaccord. Voilà, on n'est pas d'accord avec ça. On n'est pas d'accord pour voir des champs oranges. Et disons-le, mais sans colère, mais faisons remonter cette information-là, de dire juste, mais non, nous on veut pas de ça. Pourquoi moi j'achète ? Alors, c'est rigolo parce que il y a un boulanger à chez Digny qui est sympathique, c'est pas le problème. Mais moi j'achète pas chez lui parce que la farine qu'il utilise. C'est encourager ce que je vois autour et qui me déplaît, quoi. Donc, on a un paysan boulanger pas loin et c'est à lui que j'achète le pain une fois par semaine. C'est juste pas, voilà, montrons notre désaccord à un moment, juste de dire ça, de dire, bah non, moi j'ai pas envie de votre truc, quoi. J'ai pas envie de ça.
Et ça revient à utiliser un des seuls pouvoirs qu'on a, le pouvoir d'achat.
Oui, alors, moi, en fait, j'aime bien l'inverser et rappeler que si on a un pouvoir d'achat, on a aussi un pouvoir de non-achat. Et voilà, et utilisons notre pouvoir de non-achat. Ne pas acheter ci, ne pas acheter ça. Globalement, aussi, quand même, moins acheter. Ça ne nous rend pas heureux d'acheter. Vraiment, hein, donc arrêtons d'acheter. Il y a plein de solutions, en plus. Encore une fois, ça existait beaucoup moins il y a quelques années, mais là, on voit toutes les ressourceries, on voit les salles de vente, les... Voilà, allons-y, quoi. Moi, dans mon mode de vie, un truc que je me suis interdit, c'est acheter neuf. Je n'achète pas neuf, je me le suis interdit. Donc, ça m'évite tous les achats d'impulsion. Et on a déjà produit tellement, il y a déjà tellement de tout partout, quand même. Mince, on doit bien trouver ce qu'on veut, quand même. Encore une fois, maintenant, tout ça, on peut, c'est facile, quoi. Enfin, moi, je trouve ça vraiment facile, en fait, hein.
Avant de parler de permaculture, je reviens à cette notion de champ en bio, parce que souvent dans l'inconscient collectif, hein, le bio c'est respectueux de la terre, et là les monocultures que je vois, ça reste une monoculture.
Oui.
Et d'ailleurs, comment est-ce qu'on fait quand on a balancé, quand on a appauvri ces sols, quand on a tué la vie dans le sol, comment est-ce qu'on fait pour passer d'une agriculture intensive à une agriculture bio sur des surfaces qui sont énormes?
Alors voilà, toute la difficulté elle est là, c'est pour ça que c'est difficile et qu'il faut être reconnaissant. C'est drôle parce que qu'est-ce qu'on s'est foutu de notre gueule avec ce truc? Et maintenant c'est obligatoire, c'est les engrais verts, les couverts végétaux en hiver. Maintenant c'est obligatoire, hein. Mais à une époque il y avait que les bio qui le faisaient. Mais c'est aussi une manière d'amener un peu plus de diversité. Je vois par exemple là en hiver ils font pas mal de radis daikoun parce que ça décompacte les sols et tout. Malgré tout, il y a quand même une vision très monoculturale, c'est certain, parce que le drame de l'agriculture, un de ces drames, c'est Claude Bourguignon qui le rappelle, c'était de séparer la production animale de la production végétale. C'est un énorme drame. Résultat, on se retrouve avec... On a fait de la production végétale en plaine parce que on a le relief pour. On a des plaines et on peut faire passer des tracteurs. Donc on arrache les haies, on bouche les mares et on fait passer des tracteurs. Zone de piémont, zone de montagne, plus accidentée, plus pentue, on met les animaux. Alors, résultat, on se retrouve en plaine, là où c'est minéralisé, bien, on se retrouve en plaine sans apport de matière organique, et dans les zones de piémont et semi-montagneuses, on se retrouve avec un surplus d'animal et du surpâturage. Sauf que voilà, il y a 400 bornes entre les deux maintenant. Ça, c'était une énorme erreur. Et on va toujours essayer après de mettre des rustines là-dessus. Et je vois des céréaliers autour de moi qui font ce qu'ils peuvent en bio pour mettre des rustines, mais ça ne reste que des rustines. On ne peut pas. Faire le distinguo qu'on a fait, quoi. Production animale, production végétale, il y a trois drames à notre agriculture. C'est le départ des femmes. Ça, c'est un énorme drame. Dans les années 60-70, on fait partir les femmes des fermes et c'est là que c'est la fête. Là, c'est bon. Là, on va vendre du tracteur. Il n'y a plus de femmes pour tamponner maintenant. C'est bon, c'est parti, à fond. Ça, c'était un premier drame. Deuxième drame, c'était la fin des animaux sur les lieux de production. Troisième drame, la fin des arbres. Voilà, on enlève les arbres. Le plus simple à faire revenir, en fait, c'est les arbres. espérons qu'on retrouve un peu... Alors là, par rapport au retour des femmes, on voit dans les néo-paysans, on voit quand même qu'une féminisation aussi de la profession, espérons qu'elle réussisse à perdurer, et espérons que tout ça se fasse aussi en compagnie des animaux.
Cette néo-ruralisation, néo-paysannerie, c'est vrai qu'on l'observe aussi de plus en plus aujourd'hui, où les jeunes refont le chemin des champs pour quitter les rues bétonnées des villes, mais avec cette notion de conscience.
Oui, notion de conscience, c'est presque un paradoxe d'employer le mot, hein, parce qu'en fait, ils sont totalement inconscients, hein, mais totalement. C'est-à-dire que, à la campagne, moi je suis issu du monde rural, hein, à la campagne, on est méfiant. On est super méfiant. Donc, dès qu'il y a un néo-rural qui arrive, on regarde avec suspicion. Et par contre, en ville, mais qu'est-ce qu'ils sont présomptueux? Qu'est-ce qui manque d'humilité? On les voit arriver en disant, mais non, on va faire des petites fermes productives, esthétiques, rentables, belles, bonnes pour l'environnement. Mais qu'est-ce que vous croyez qu'on a essayé de faire, nous, les petits gars? Qu'est-ce que vous croyez qu'on a essayé de faire? Qu'est-ce que vous avez de plus que nous pour y arriver? Vous avez de plus que nous, que vous y connaissez rien? Voilà, non mais c'est ça le truc, quoi. Donc, nous, on les regarde arriver à la campagne, nous disons, oh là 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 là. Et effectivement, 9 fois sur 10, ça va dans le mur, hein. Et une fois sur 10, ça marche.
Donc, 9 fois sur 10, donc ceux qui font le choix de la paysannerie, qui retournent vers la terre parce qu'ils ont conscience qu'aujourd'hui, il faut changer ses comportements, qu'on ne peut plus continuer à vivre de cette manière-là, cet appel de la nature, retrouver cette connexion perdue. Donc 9 sur 10 se plantent.
Je ne sais pas, c'est un chiffre que je donne comme ça. 9 sur 10 se plantent, attention, quand ils restent dans cette idée de vivre que de sa production. Dès qu'ils commencent à évoluer, à changer, là c'est bon, ils y arrivent de toute façon. Et puis autre chose, c'est le changement vient de la ville, il vient pas de la campagne, il viendra pas de nous, hein. Donc ils sont indispensables, il faut qu'on soit là pour accompagner, pour aider, pour que des projets puissent se mettre en place, c'est super important. Donc à nous d'être moins méfiants, aux urbains d'être moins présomptueux, plus humbles. Et après, moi, je crois plus du tout au modèle agricole tel que... Parce que le modèle agricole, il est très récent, hein, en fait. Hein, il date de la... Ouais. C'est-à-dire que même d'être agriculteur. C'est-à-dire, moi, j'aime bien les mots. Et parfois, ils ne manquent pas. Et donc, paysan, le paysan vit sur le pays. L'agriculteur, il vit dans aguerre, le champ. Voilà le basculement, en fait. Quand on a dit aux paysans qu'ils vivaient de tout leur talent sur le pays, on est fin 19e. Voilà. Et fordisation du monde arrive. Hein. Et là, on dit, bah, non, on dit aux paysans, non. Vous, maintenant, vous ne vivez plus vos multiples talents. Vous ne construisez plus vos maisons. Vous faites plus tout ça, maintenant. Maintenant, vous vivez dans votre champ. Vous êtes agriculteur. Donc, ce que vous allez produire dans votre champ, vous allez le vendre. Et avec ça, vous ferez construire votre maison. Ça c'est tout nouveau, ça correspond à la fordisation du monde, quoi. Faut pas croire que le drame de Ford concerne uniquement les artisans et l'industrie qui en découle. La fordisation du monde, elle est partout, et la perte de sens d'ailleurs qui s'accompagne de cette fordisation, hein, d'ailleurs, et le fait de plus être maître de son outil. Plus personne n'est maître de ses outils. C'est-à-dire que le matin, quand on allume un ordinateur, on fait un signe de croix, en fait, hein. Et l'outil, à l'origine, c'est le prolongement de ma main. Il est là pour me rassurer, il est là pour que je me sente plus fort, il est là pour que je sois plus autonome avec, et non pas plus dépendant. Et là, l'outil, maintenant, nous rend encore plus dépendants, mais parce que nous sommes dans une relation de dépendance à tout, quoi. Mais ça, c'est une fordisation qui fait que, même dans nos modes de vie, on n'est plus capable de produire notre alimentation, plus capable de construire notre habitat. Il ne faut pas s'imaginer que les paysans avaient les moyens de faire construire des maisons. Les maçons, les architectes, les charpentiers, les couvreurs, ça c'était pour les riches, c'était pas à la campagne. À la campagne, tu construisais ta grange, hein. Il n'y a qu'à regarder comment elles sont foutues, hein. Voilà, c'est pour bien s'apercevoir que non, ça s'est fait avec le bois de la haie, quoi. C'est les gens du coin qui faisaient ça. Donc c'est se réapproprier tout ça. Et moi, ce que j'espère là, par rapport à tous ces néo-ruraux qui arrivent, c'est qu'ils vont nous extirper, j'espère, de ce modèle agricole, pour arriver, aller vers, pas revenir, parce que pour revenir, il faut y être allé, donc aller vers un modèle plus paysan, c'est-à-dire où on vit de plus de choses, qu'on n'a pas que le talent de faire pousser des laitues, et de vendre des laitues sur le marché. On a d'autres talents. On peut répondre aux besoins de plein de gens qui est de d'acquérir eux aussi de l'autonomie, de sortir du béton, allons vers les besoins de notre pays, quoi. Et il a pas mal de besoins de notre pays en ce moment.
Et en allant vers cette nouvelle paysannerie, on se retrouve dans un panel de modes de production. Dans ce Tour de France, on parle d'agroécologie, on parle de permaculture, on parle d'agroforesterie, on parle de maraîchage polyculture. Et les termes sont en train de partir dans plein de directions différentes.
Alors là, moi, je suis très, très dur avec ça, hein, parce que je vois des mots fleurir partout, mais je vois pas les champs fleurir du tout, quoi. Donc ça me pose un vrai problème. L'agroforesterie, telle qu'on la pratique, je comprends pas. Je comprends pas du tout ce qui se passe là. Mais ici, il y a des essais en céréales, hein, sur l'agroforesterie. C'est terrible à voir. On a des, je sais plus, je crois que c'est tous les 14 mètres, des alignements d'arbres. Francis Allais nous rappelle pourtant que un arbre, il n'est pas fait pour être aligné. Mais c'est pas grave. On aligne des arbres. Ignominie, on aligne des arbres à largeur de tracteur. C'est-à-dire que, on a déjà fait une énorme erreur. C'est le remembrement. Voilà, on a redessiné le paysage pour le tracteur. On s'est rendu compte que c'était une énorme connerie. Mais on recommence, c'est pas grave. C'est pas grave. On avait un modèle agroforestier en France qui était joli comme tout, dont on peut voir des restes absolument magnifiques dans le Pays d'Auge, par exemple. C'est le bocage. Voilà, le bocage, c'est le modèle agroforestier français. Effectivement, il a toutes les vertus. Et je propose aux auditeurs d'aller dans le bocage du Pays d'Auge. C'est absolument merveilleux. Mais de là à conserver cette... J'aime pas le rôle utilitaire. Pour moi, on fait pas comme ça, quoi. Agroécologie, oui, enfin, tout ça, c'est des mots, quoi, en fait. Hein. C'est compliqué pour moi. Enfin, cette idée de permaculture, on n'ose même plus employer le mot, tellement il est dévoyé. Permaculture, ça revient à faire des buts et des mandalas.
Et des spirales.
La spirale. Et donc, spirale d'aromatique, au passage, hein, je précise qu'on attribue à la permaculture dans Théâtre et ménage des champs d'Olivier de Serres, 1650. Il y a un formidable schéma, hein, de ce que c'est qu'une spirale d'aromatique en 1650. Donc, c'est pas nous qui avons inventé, loin de là. Permaculture, moi je trouve que les... comment ne pas s'en inspirer, quoi. C'est toujours difficile, du coup, maintenant, ça a été tellement dévoyé, cette belle pensée éthique et pratique à la fois, elle a été tellement dévoyée que c'est difficile d'intervenir dessus, de rappeler, mais juste, pour se faire une idée de la permaculture, alors si on doit se la faire rapidement, relisons les 12 principes et essayons de nous en inspirer. On va s'apercevoir que dans un contexte de production purement économique, c'est impossible. Parce que on vit dans l'horreur économique et donc on ne peut pas appliquer ces principes-là. On peut s'en inspirer, on peut tenter de s'en rapprocher, etc. Donc pour moi, il n'y a pas d'agriculture permacole. Il y a une agriculture inspirée de ça. Pour le reste...
On aime bien mettre les gens dans des cases. Dans quelle case tu es ?
Oui, c'est ça. Ouais. Et on dérange beaucoup quand on se met pas dans une case, quoi. Alors vous faites quoi ? On est des Occidentaux, quoi. Il nous faut des mots sur tout et pour tout. C'était aussi un des bons moyens de nous couper de la nature, de mettre des concepts et des mots partout. Revenons vers ça, quoi. Tout simplement, c'est moi je me raccroche à aucun courant, quoi que ce soit, quoi. Les éditeurs, la presse jardin, etc., aiment dire permaculture. Qui disent permaculture, mais effectivement, je suis super étonné et joyeux, hein, de constater que Fukuoka est maintenant cité partout, quoi. Mais il y a 20 ans, quand Trey Daniel a publié pour la première fois, il y a 20 ans, on n'osait pas dire qu'on était en bio, enfin, on la ramenait pas là-dessus. Alors, dire que notre livre de chevet, c'était La révolution d'un brin de paille, le sous-titre est super important. Pour une agriculture non violente, c'est ça le sous-titre, hein, quand même. Hein. C'est une mode, tout ça sont des modes, l'agroécologie, la perma, etc. De chaque mode, il reste quelque chose de bien. Et c'est ça que je veux retenir, quoi. C'est que de tout ça, il va rester des belles idées, des belles choses. Là, la permaculture, par exemple, dans la tête des gens, maintenant, c'est acquis, c'est forcément en bio. Donc voilà, on gagne du terrain petit à petit, progressivement, comme ça. Après, ces mots-là vont en arriver d'autres, mais c'est pas grave parce qu'ils auront essaimé à leur manière, quoi.
En tout cas, depuis les 15 ans que tu es ici, tu te sens à ta place.
Ah ouais, oui, en fait. Mais parce que tout le dit tout le temps, quoi. Hier, en nettoyant une vieille serre, j'ai trouver deux énormes couleuvres, mais énormes, j'avais jamais vu grand comme ça, hein. À l'œil, je dirais entre 1,20 m et 1,50 m. Et là, leur présence me dit, mais c'est bon, t'es dans le bon sens, t'y vas, quoi. Quand les hirondelles reviennent dans le bâtiment, il n'y avait pas d'hirondelles, c'est quand je suis arrivé. Quand elles reviennent tous les ans, elles me disent, mais vas-y, continue, t'es dans le bon sens. Et même, alors là je rejoins complètement Gilles Domenech sur, et le maraîcher sur sol vivant, ce sont les plantes qui font la terre, et non pas l'inverse, ce sont bien les plantes qui nous ont fait ce don, ce cadeau énorme de la terre. Malgré tout, si on veut cultiver, et ça, qu'on soit professionnel ou amateur, ça marche quand on a compris que avant les plantes il y a la terre, voilà, quand c'est d'elle qu'on prend soin, alors ça marche. C'est vivre de sa production, ça peut être compliqué. Faire pousser des plantes, non.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.